Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute! Aujourd'hui, nous ouvrons notre micro à Marie Luquette, chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Nous allons parler plus spécifiquement de l'évaluation diagnostique en mathématiques pour les apprenants du primaire et du secondaire. Nous vous invitons à laisser des commentaires ou à vous abonner à notre page Instagram pour être informé des nouvelles publications. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, on va y aller tout de suite dans le sujet. On parlait de l'évaluation diagnostique. Que faut-il inclure et considérer quand on fait l'élaboration d'une évaluation diagnostique?
Ben, je vais répondre de façon générale d'abord pour tout type d'évaluation, puis on verra les spécificités de l'évaluation diagnostique en cours de route. En docimologie, qui est la science qui s'intéresse à l'évaluation, les principaux critères pour qu'un outil d'évaluation soit considéré comme bon, c'est d'abord la fidélité, donc le fait que l'outil mesure avec une bonne précision, là, qui est exacte, et le fasse de façon constante dans le temps aussi. Ensuite, on veut une validité, donc le fait que l'outil évalue bien ce qu'il prétend évaluer. Et ça, c'est plus subtil que ça en a l'air. On veut aussi que l'outil donne un portrait complet des habiletés, des compétences, des connaissances qu'on veut évaluer. Et on veut aussi que l'outil soit sensible, c'est-à-dire qu'il permet de distinguer les élèves, dans notre cas, les uns des autres. Donc, on ne veut pas que, par exemple, un outil qui donnerait une note entre 0 et 100, on ne veut pas que sur cet outil-là, l'écart entre un élève très faible et un élève très fort soit de 5 points, par exemple, parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à les distinguer correctement. Pour nous, maintenant, comment ça s'applique? L'outil d'évaluation qu'on choisit, que ce soit un qu'on construit ou un outil d'évaluation qu'on trouve et qu'on utilise, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il correspond à mon intention d'évaluation? Donc, si je veux une évaluation diagnostique, est-ce que l'outil est approprié pour une évaluation diagnostique? Par exemple, est-ce qu'il va inclure les préalables de la notion que je veux évaluer ou il se concentre seulement sur la notion? Si je veux une évaluation diagnostique, des fois, l'élève que j'ai devant moi réussira pas bien, pas du tout, certaines parties, certains items de l'outil d'évaluation. Mais si je suis pas capable de voir s'il y a les préalables requis, ben, ça laisse un trou dans mon évaluation, dans mon portrait de l'élève après, puis ça va être plus difficile d'intervenir. Ensuite, est-ce que l'outil permet vraiment d'évaluer ce qu'on veut évaluer? Donc, si je veux évaluer des connaissances, c'est pas la même chose que si je cherche à évaluer des compétences ou des procédures ou la compréhension de l'élève. Donc, est-ce que les types de tâches qui sont proposées par l'outil sont cohérents avec ce que je souhaite évaluer? Est-ce qu'il y a certains types de tâches qui sont surreprésentées? Donc, si je dis que je vais évaluer une compréhension, mais que j'ai que des questions d'application, je peux poser des questions sur le fait que l'outil soit approprié ou pas. Est-ce qu'il y a un certain équilibre par rapport à ce qui est prescrit dans les programmes aussi, par rapport toujours au sujet de mon évaluation? Et ça, un élément très important, c'est est-ce que les élèves peuvent répondre en empruntant ce que j'appelle des voies de contournement? Donc, est-ce qu'il y a moyen de répondre correctement aux questions, mais sans utiliser la notion que je veux voir appliquer? Par exemple, si on a un outil qui veut évaluer la multiplication, mais que les nombres en jeu sont relativement petits, je sais pas moi, 25 fois 3, ben, l'élève pourrait très bien faire 25 plus 25 plus 25, arriver à la bonne réponse. Puis ça pourrait me laisser croire, surtout dans certains outils où on ne s'attend pas vraiment à la démarche, ça pourrait me laisser croire qu'il maîtrise la multiplication alors qu'il ne l'a pas utilisé. Donc, il faut faire attention à ces enjeux-là. Ensuite, est-ce que l'outil permet d'évaluer tout ce qu'on souhaite évaluer, toutes les facettes de l'objet? Est-ce qu'il y a certains types de tâches ou alors est-ce qu'il y a des ensembles de nombres, par exemple, qui sont manquants? Je peux vouloir évaluer la multiplication, mais si j'ai que des nombres entiers, ben il faut que j'en sois conscient dans mon interprétation après, à savoir, ben j'aurais pas évalué les nombres à virgule, j'aurais pas évalué les fractions, j'aurais pas évalué autre chose. C'est correct, mais il faut juste en être conscient. Et l'autre élément, je dirais, qui est parmi les plus importants, c'est est-ce que l'outil permet d'évaluer seulement ce qu'on souhaite évaluer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des interférences qui pourraient venir biaiser mes résultats? Ça peut être à cause du langage qui est utilisé. Ça peut être à cause des connaissances générales qui sont requises. Si on pense à des problèmes, par exemple, des fois, les contextes sont un peu obscurs pour certains élèves. Est-ce qu'il y a d'autres concepts mathématiques qui sont impliqués, mais qui ne sont pas ceux que je vais évaluer, qui pourraient fausser mon jugement? C'est sûr qu'il y aura toujours un certain biais personnel là, dans l'interprétation des résultats d'une évaluation. Il faut en tenir compte aussi, mais si l'outil en lui-même est relativement circonscrit puis limite les biais, ben c'est mieux. Voilà. Donc, en gros, tout ça. Maintenant, si on regarde un outil d'évaluation diagnostique en particulier, il faut aussi savoir l'adapter à l'élève qu'on a devant nous. Donc, est-ce que le contenu de l'outil est pertinent par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, de l'histoire didactique de l'élève? Si j'ai un élève qui a doublé une année scolaire, etc., ben, est-ce que l'outil est quand même pertinent? Est-ce qu'il risque de l'avoir déjà utilisé, cet outil-là, parce que ça peut fausser les résultats aussi? S'il l'a déjà fait dans un autre contexte, qu'il a eu accès aux réponses, ben, il va peut-être mieux performer que ce qu'il est réellement capable de faire. Et est-ce que le niveau de difficulté de l'outil correspond à ce qui est attendu de nos élèves à ce stade-ci? Et souvent, on va prendre des outils existants, mais qui sont faits pour être des outils d'évaluation sommative, par exemple dans un cahier ou dans un guide de l'enseignant. Il y en a qui sont fournis, puis on va l'utiliser un peu comme évaluation diagnostique, mais ce qu'on attend comme niveau de maîtrise de l'élève au début puis à la fin de l'apprentissage, ça, ben, c'est normalement, c'est pas le même. Il devrait y avoir une différence. Donc, être sûr là, que l'outil vise le bon niveau. Est-ce qu'il va me permettre de discriminer vraiment les élèves qui ont atteint une voie attendue de ceux qui ne l'ont pas encore atteint?
Tu parlais du langage et dans un autre
Oui.
épisode où on parlait justement des évaluations, mais pour l'orthographe, on parlait aussi du vocabulaire spécifique. Des fois, on peut prendre des évaluations, t'es d'un autre pays, mais le
Oui.
vocabulaire ou la tournure de phrase peut
Oui.
avoir une incidence aussi
Oui.
sur l'élève, en fait.
Absolument. Puis les mathématiques ont déjà un vocabulaire particulier qu'on a tendance à prendre pour acquis, mais il y a plein de mots en mathématiques qui ont des sens différents de ceux qu'ils ont dans la vie quotidienne. Pensons juste à volume. Dans la vie courante, le volume, c'est le son de la radio, dans les écouteurs, etc. En maths, le volume, c'est complètement autre chose. Donc, ça peut éventuellement créer des difficultés aussi pour les élèves si on n'est pas sensible à ça. Et on a beaucoup d'habitudes en mathématiques aussi par rapport à certains contextes. On voit, par exemple, au début du primaire, on voit beaucoup de contextes en lien avec des jeux de billes, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'élèves québécois qui ont déjà joué aux billes dans la cour d'école, pour ne pas dire pratiquement aucun. Et donc, on part en un contexte qu'on croit être simple, puis qui en réalité va créer des difficultés. Même chose avec les contextes, je ne sais pas moi, de peinture, par exemple, pour l'air. On est habitué à ce que l'évocation de peinturer des murs fasse référence à l'air, mais en réalité, pour l'élève de troisième, quatrième année, puis j'ai envie de dire même jusqu'au secondaire, c'est pas du tout évident. Même le concept de peinturer un mur, ça se peut très bien que nos élèves aient jamais vu faire ça. Et sachent pas exactement à quoi ça fait référence non plus. C'est pas. Faut faire attention, effectivement.
À ce moment-là, comment on peut construire une évaluation tout en gardant en tête qu'il faut atteindre une intention pédagogique, des buts? Est-ce que tu as des pistes pour nous?
Oui. Ben, la première chose qu'on a tendance à prendre pour acquise, mais qu'il faut vraiment, à tenir pour acquise, mais qu'il faut vraiment revoir, c'est déterminer qu'est-ce qu'on veut évaluer. Pas seulement la notion, le contenu mathématique, mais aussi est-ce que je vais évaluer les connaissances? Est-ce que je vais évaluer la compréhension? Est-ce que je vais évaluer la capacité à appliquer cette notion-là dans un contexte donné? Est-ce que je veux évaluer l'apprentissage d'un élève? Puis là, si je parle d'apprentissage, on parle de progrès. Et donc, pour l'évaluer, ça me prend deux mesures. Ça me prend une mesure avant, une mesure après, pour bien déterminer si l'élève a avancé ou pas. Est-ce que je vais évaluer des compétences? Donc, évidemment, la forme de l'évaluation va dépendre de ça. Donc, ça, c'est le premier objet. Ensuite, est-ce que mon évaluation va être purement diagnostique? Est-ce que je veux que l'élève apprenne pendant ou au travers de l'évaluation? Souvent, en orthopédagogie, on a un peu ce souci-là parce que ben, le temps qu'on a avec les élèves est limité et précieux. Donc, on a tendance à vouloir provoquer un apprentissage dans toutes les situations possibles. C'est pas mauvais, mais il faut en être conscient à ce moment-là. Et moi, ce que je propose, c'est une méthode qui est inspirée de ce qu'on appelle l'ingénierie didactique. Donc, qui s'inspire de ce que des ingénieurs font, par exemple, pour construire un pont, disons-le comme ça. Donc, quand je veux construire un pont, ben, la première étape, c'est pas de sortir mon excavateur puis mon béton, là. Je vais d'abord faire des analyses préalables. Donc, de quoi j'ai besoin, avec quelles contraintes je travaille, etc. Donc, dans notre cas, une analyse du concept mathématique, de sa place dans les programmes, c'est quoi les difficultés fréquentes qu'on peut s'attendre à rencontrer chez les élèves. Donc, je vais vouloir essayer d'aller les chercher, ces difficultés-là. Je vais poser des questions spécifiquement pour les faire ressortir si elles sont là. Et est-ce que j'ai des contraintes concrètes, notamment le temps disponible? On peut avoir un très bel outil, mais si je m'adresse à un élève de 6 ans puis que mon outil prend 3 heures à passer, ça fonctionne pas. 3 heures, j'exagère, là. Même après 20-25 minutes, on peut se poser des questions sur la fiabilité de ce qu'on obtient. Et c'est vrai, là, je parle du primaire parce que c'est frappant, mais c'est vrai au secondaire, on a tendance à le sous-estimer aussi. Est-ce qu'une évaluation de 3 heures permet vraiment à l'élève de rester concentré tout au long de ses réponses? J'en doute. Je vais laisser ça ouvert. Donc, une fois que j'ai fait le portrait de toutes mes contraintes, je vais me mettre à concevoir mon outil. Donc, c'est le moment où je m'assois et je conçois, où je m'inspire de ce qui existe. Enfin, on aboutit à une première version de l'outil. Et là, on va faire un peu comme les ingénieurs vont faire des simulations à partir du premier plan. On va pas essayer de construire le pont pour voir s'il tient quand le premier camion passe dessus. Donc, on va faire des analyses dites a priori. Donc, c'est quoi les différentes démarches possibles pour chacun des items? Est-ce que l'outil est vraiment complet? Est-ce qu'il est exact? Est-ce qu'il y a encore des biais que je pourrais essayer d'éviter en cours de route? J'insiste vraiment sur les démarches que les élèves pourraient utiliser parce que c'est important de s'assurer que pour chaque item, l'élève ne peut pas contourner ce que je veux évaluer. C'est vraiment un élément central. Et bon, ensuite, on peut l'utiliser, on peut construire notre pont, mais c'est important de faire un retour après. Est-ce que j'ai vu, par exemple, apparaître des démarches que je n'avais pas prévues? Et est-ce que ces démarches-là me permettent de poser un jugement sur la maîtrise du concept par l'élève? Est-ce que la question la plus importante, là, dans le fond, c'est est-ce que les traces que j'ai recueillies avec cet outil-là vont me permettre de porter un jugement fidèle, valide sur ce que je voulais évaluer? Donc, même après coup, c'est important de se reposer la question, compte tenu de la façon dont ça s'est passé, est-ce que ce que j'obtiens est vraiment utilisable en pratique? Voilà. Et je rajoute un dernier élément qui est super important, on revient à l'objectif, mais si mon objectif en bout de ligne, puis la plupart du temps c'est un peu le cas, si mon objectif c'est d'intervenir auprès de l'élève, ben est-ce que l'outil d'évaluation permet d'avoir un portrait suffisamment clair pour savoir sur quoi intervenir? Et je pense ici à certains outils d'évaluation standardisés qu'on nous propose parfois. C'est bien de savoir que mon élève se situe par exemple au 23e percentile. Mais ça me donne aucune idée sur ce que je dois travailler avec lui. Donc, c'est peut-être pas ce qui est le plus approprié là, pour nous, tout dépendant encore une fois de l'objectif qu'on s'est donné au départ.
Alors du coup, j'en profite pour faire du pouce en bon
Oui.
français sur ce que tu viens de dire. Puis du coup, comment on peut interpréter et qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats de ces évaluations-là?
Ben, les évaluations standardisées, pardon, c'est toujours un peu délicat. Elles ne mesurent pas toutes la même chose non plus. Je pense que l'essentiel, c'est de bien les connaître et de ne pas se fier seulement aux résultats. Et là, je pense en milieu scolaire, par exemple, on reçoit souvent des rapports, par exemple, de neuropsychologie avec les résultats de l'évaluation. Mais si on ne sait pas ce test-là, peu importe lequel il a été utilisé, si on ne sait pas de quoi il est constitué, qu'est-ce qu'il mesure, quel genre de questions on pose, le résultat, on ne sera pas capable de l'interpréter adéquatement. Donc, la première chose, je pense que c'est vraiment de s'informer, de s'assurer de connaître les outils qui sont utilisés. Est-ce qu'on parle d'un score en mathématiques, mais là, mathématiques, est-ce que c'est seulement l'arithmétique? Est-ce que ça inclut aussi de la géométrie ou des éléments par rapport à la perception de l'espace, par exemple? Même en arithmétique, est-ce qu'on est allé au sens du nombre ou est-ce qu'on a fait des opérations arithmétiques? Donc, déjà, de savoir tout ça, ça aide. Est-ce qu'on avait que des questions à choix multiples? La plupart du temps, c'est un peu ce qu'on a. Et là, les questions à choix multiples, justement, est-ce que l'élève peut avoir répondu au hasard à certaines questions? Probablement. C'est pris en considération, là, normalement, dans l'outil. Mais il y a tout ça, là, dont il faut tenir compte pour l'interpréter correctement. Et la plupart du temps, ce qui va nous aider le plus, c'est quand les outils, pour la plupart des outils standardisés, c'est le cas. Souvent, ils sont divisés en sous-sections, en sous-catégories. Et là, si on a les scores partiels, ben déjà, ça nous donne une meilleure indication de ce qu'on peut travailler avec l'élève, mais ça reste vague en général.
J'en profite pour faire un petit lien avec un épisode de la saison 2, justement avec Geneviève Boutin. On a discuté d'évaluation quantitative et qualitative. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez aller regarder ça, je me trompe pas, c'est le deuxième épisode de la saison 2, donc ça peut être intéressant.
Alors, est-ce que Marie, tu peux nous parler justement de qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a toute une gamme d'évaluations disponibles, que ce soit maison ou standardisée. Tu as parlé de l'interprétation et de faire attention à cette interprétation-là. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, si je comprends bien la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le résultat de l'évaluation? La première question, c'est de revenir à notre intention d'évaluation. Qu'est-ce qu'on voulait, pourquoi on voulait faire cette évaluation-là? Donc, si mon objectif, c'est l'intervention ou une remédiation quelconque avec l'élève, ben, à ce moment-là, je reviens là. Ça va être d'aller voir les erreurs qui ont été commises. En général, les erreurs sont plus intéressantes que les réussites parce que, c'est là qu'il y a une analyse qui peut se mettre en branle. La question, oui, il y a des erreurs. Si on s'arrête là, souvent, malheureusement, on passe un peu à côté de l'essentiel. La question à se poser, à mon avis, c'est ces erreurs-là ont été provoquées par quelle connaissance? C'est rare qu'une erreur va être causée par un élève qui a répondu n'importe quoi, même si c'est ce qu'il nous dit quand on le lui demande. Les élèves répondent rarement n'importe quoi. En général, ils répondent au meilleur de leurs connaissances. Et donc, c'est quoi ces connaissances-là qui peuvent être partielles, qui peuvent être fausses, qui peuvent être exactes, mais dans certains contextes seulement, puis là, l'élève essaie de l'utiliser dans un autre contexte, puis ça ne fonctionne pas tout à fait. Un exemple classique, là, c'est par exemple l'élève qui a appris que pour multiplier par 10, on ajoute un zéro. Ça fonctionne à condition qu'on travaille sur des nombres entiers. Parce que dès que je fais 12,3 multiplié par 10, ben l'élève dit 12,30, il a ajouté un zéro. Le problème, c'est que, bon, clairement, on n'a pas obtenu un résultat 10 fois plus grand. Donc, quand je parle de connaissances partielles, c'est ce à quoi je fais référence. Une connaissance qui fonctionnait dans un domaine, puis qui tout d'un coup fonctionne plus. Mais c'est bien plus intéressant d'intervenir sur la connaissance que sur l'erreur elle-même. Parce que si je reste sur l'erreur, je vais simplement dire à l'élève, ben voilà, faut pas mettre de zéro. Pourquoi? Ça sort d'où? Pourquoi ça fonctionnait puis ça fonctionne plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'élève apprend par cœur, sans comprendre d'où ça vient, sans comprendre. Puis l'erreur, ben, elle risque de revenir parce que la mémoire étant une faculté qui oublie, comme on nous dit souvent. Si je travaille sur la mémorisation seulement, sans qu'il y ait de compréhension réelle du sens derrière, ben, il y a plus de chances que les erreurs se reproduisent à moyen et long terme. Ou alors, on va souvent les voir ressurgir quand l'élève va être en surcharge cognitive, dans un contexte de résolution de problème, par exemple. Où là, il se passe tellement de choses dans sa tête que, évidemment, les petites erreurs de ce type-là, qu'on pensait maîtriser, ben, vont refaire ça. Et souvent, après une évaluation, ben, on a beaucoup d'erreurs commises par les élèves. Il va falloir choisir. On ne peut pas intervenir sur tout en même temps, vous le savez tout aussi bien que moi. Donc, choisir ce sur quoi on veut intervenir. Et travailler, comme je le disais, à partir des connaissances montrées par les élèves, les connaissances qui sont maîtrisées, les connaissances qui sont partiellement maîtrisées, c'est vraiment sur les connaissances qu'on veut aller travailler et pas sur les erreurs en tant que
Travailler sur les connaissances, je retiens
telles.
ça. Tu sais, on parle beaucoup de la triangulation, qu'il faut
Oui.
regarder notamment la collecte de traces. Une fois qu'on a pris cette collecte de traces, comment on peut valider ou nous assurer que nos observations, elles sont légitimes?
Ben, déjà, s'il y a de la triangulation, on a un degré de certitude de plus. C'est une très bonne chose. Et plus on a de sources différentes, évidemment, mieux c'est. La question, c'est ben, les données qu'on a, les traces qu'on a collectées, elles viennent d'où? Est-ce qu'il y a des biais qui ont pu les affecter? Et est-ce que ces biais-là sont les mêmes dans tous les cas? Par exemple, si dans toutes les traces que j'ai recueillies, j'ai demandé à l'élève de faire une démarche à l'écrit, ben, s'il y a une difficulté au niveau de l'écrit, évidemment, ça va avoir un impact. Donc, quand on parle de triangulation, on parle de sources variées, mais variées le plus différentes possible. Donc, idéalement, des traces qui ont été faites à l'oral, à l'écrit, pour s'assurer que, justement, ces biais-là sont les moins présents possibles. Et ça va nous permettre d'avoir des idées plus claires aussi parce que est-ce qu'on voit chez l'élève les mêmes erreurs dans tous les contextes? Et sinon, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que dans un contexte, je vois une erreur, puis dans un autre contexte, j'observe pas cette erreur-là? Encore une fois, au niveau des connaissances en jeu, est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère? Est-ce que l'élève est plus à l'aise quand il a accès à un support visuel, par exemple, ou quand il n'y en a pas? Ou avec un certain ordre de grandeur des nombres impliqués? Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs là, qu'on pourrait nommer ici, mais c'est intéressant. Une dernière piste peut-être pour la triangulation que je trouve intéressante, c'est qu'il existe des formes, j'appelle ça des formes alternatives d'évaluation parce qu'elles sont moins connues, moins répandues. Par exemple, l'appréciation dynamique. C'est une forme d'évaluation qui cherche à identifier non pas ce que l'élève est capable de faire à un moment donné, mais qui cherche à identifier son potentiel d'apprentissage. Donc, l'idée, c'est qu'on va amener l'élève hors de sa zone de confort avec le soutien de l'adulte. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire avec le soutien de l'adulte? Et on se dit, ben, tout ce qui est là-dedans, c'est dans sa zone proximale de développement. C'est là qu'on va pouvoir aller travailler. Ce qu'il n'est pas capable de faire, même avec l'aide de l'adulte, pour l'instant, c'est hors de portée. Donc, on ne s'intéresse pas à ce qu'il sait faire tout seul de façon autonome maintenant, mais à ce qu'il est capable d'apprendre pour les prochaines étapes. Donc, ça peut être des choses en intervention orthopédagogique qui sont particulièrement intéressantes. Donc, l'appréciation dynamique, là, je répète le nom de la méthode si vous voulez vous informer. Il y en a d'autres, mais c'est celle qui est la plus développée en mathématiques, en tout cas, à l'heure actuelle, à ma connaissance.
Tu vas pouvoir m'aider, Christelle. On a justement fait un épisode où on a interviewé, on a enregistré un épisode avec Jeanne où elle parlait justement de l'appréciation dynamique, d'aller chercher le potentiel de l'apprenant en mathématiques. Ça tombe bien.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler, on a un petit peu parlé tout à l'heure du langage, du vocabulaire, des fois des différences culturelles. Oui. Est-ce que on peut pas faire malheureusement, on pourrait faire un épisode tout entier sur les inférences qu'on peut rencontrer en contexte de résolution de problèmes. Mais est-ce que tu peux nous l'évoquer comme une espèce de petit teasing sur ce petit point quand même assez important et à considérer?
Oui. Donc voilà, dans la résolution de problèmes, vous l'avez nommé, là, il y a plein, plein, plein d'aspects qui entrent en jeu. L'aspect langagier en est un. Et à l'intérieur de l'aspect langagier, la question des inférences revient souvent parce que, ben, justement, dans un problème mathématique, on a des données inconnues, on cherche à faire des liens. Ça ressemble beaucoup à un processus inférentiel, tout ça. Donc, il y a plusieurs façons là, d'aborder les inférences en résolution de problème. Et il existe différentes catégorisations des inférences aussi. Celle que personnellement, je préfère utiliser, c'est une catégorisation qui est basée sur l'opération cognitive, parce que je trouve que c'est plus facilement transférable, justement, qu'on travaille sur un texte narratif, sur un texte informatif, sur un énoncé de problème mathématique, ben, les opérations cognitives peuvent partager certaines similitudes. Je classe les inférences, en fait, c'est Fayol qui classe les inférences en trois catégories. Une première catégorie qui est les inférences d'élaboration. Donc, les inférences qui demandent d'aller chercher des connaissances chez le lecteur, que ce soit des connaissances venues d'ailleurs, des expériences qu'il a vécues, pour enrichir l'énoncé de problème. Et ça, on en a souvent besoin. Donc, si j'ai un problème qui me parle, par exemple, au secondaire, on a un problème très stéréotypé là, qu'on utilise souvent en algèbre avec dans une basse-cour, on dit qu'on a un certain nombre de têtes, un certain nombre de pattes. On a des poules et des vaches et on demande combien de poules, combien de vaches. Mais si je sais pas que les poules ont deux pattes et que les vaches ont quatre pattes, je vais avoir beaucoup de difficultés à résoudre ce problème-là. Et là, on dit si on ne sait pas, bon, ça fait sourire parce qu'on se dit, ben, qui ne le sait pas? Mais en même temps, il faut aussi que je pense à inclure cette information-là dans ma résolution de problème. Elle n'était pas là. Donc, c'est un processus inférentiel. Donc, ça, c'est le premier type d'inférence. Le deuxième type d'inférence, peut-être plus simple à imaginer, c'est les inférences qu'on appelle d'intégration. Donc, ils vont permettre de faire des liens entre les différentes parties de l'énoncé du problème. Faire des liens aussi entre les différentes parties de la démarche. Donc, souvent, en résolution de problème, on va avoir une démarche qui prend plus qu'une étape. Sinon, c'est rarement une vraie résolution de problème. Et donc, d'être capable de mettre ensemble des résultats obtenus à des étapes différentes, c'est très important aussi. Et le dernier type d'inférence, c'est les inférences type de sélection et de hiérarchisation. Ce sont celles qui permettent justement donc de sélectionner les informations importantes, de leur donner un ordre d'importance, là, de les hiérarchiser. Donc, encore une fois, quand je lis un énoncé de problème, il s'agit de voir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que je vais traiter en premier, qu'est-ce qui, au contraire, me semble plus secondaire ou auquel je vais revenir plus à la fin de ma résolution. Je me permets juste une petite mise en garde ici par rapport au fameux surligner les données importantes dans un problème. C'est une étape qu'on voit souvent au début de la résolution. Donc, on dit aux élèves, lis l'énoncé, surligne les informations importantes. Mais comment je fais pour savoir, avant de savoir comment je vais résoudre, comment je fais pour savoir de quoi je vais avoir besoin? Je peux pas savoir de quoi je vais avoir besoin avant d'avoir établi un plan de résolution. C'est un peu contre-intuitif, là, puis même, tu sais, si on le regarde objectivement, les experts, j'inclus les enseignants, les orthopédagogues, les experts en résolution de problèmes, ben, nous, on lit le problème, puis on voit tout de suite ce qui va nous servir. On le voit tout de suite parce qu'on voit tout de suite aussi comment on va résoudre. Mais si je vous mets devant un problème qui est un vrai problème à votre niveau, c'est-à-dire un problème que sur le coup, vous savez pas du tout par où passer, ben, vous serez probablement pas capable de me dire d'emblée, ah, cette information-là est superflue, je m'en servirai pas. Peut-être qu'en avançant dans le problème, vous allez dire, ah oui, mais finalement, j'en avais besoin de cette information-là. Donc, demandez aux élèves d'emblée de faire un tri, à moins qu'il y ait des informations, là, vraiment hors sujet. C'est difficile. Vaut mieux le faire sous forme de retour après la résolution. Est-ce qu'il y avait des données qui t'ont pas servi? Pourquoi tu as choisi de ne pas les utiliser? Et là, on a un regard métacognitif, réflexif, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, que si on essaie de le faire d'emblée, puis ce qu'on a souvent, c'est des élèves qui vont tout surligner carrément. Et donc, ce n'est pas vraiment utile en bout de ligne.
Justement, ça me fait penser, ben, retourner en arrière sur ses apprentissages devient également complexe. Ça me fait penser à l'élève qui va regarder un problème et d'office, OK, ben, il y a 3, 4 nombres, donc ce sont des nombres qui vont m'être utiles pour ma résolution. Là, vu qu'on travaille présentement l'addition, c'est par défaut une addition.
Et voilà.
Ça me fait beaucoup penser à ça, oui.
Oui. Oui, puis si les nombres sont écrits en lettres, on les passe, ceux-là, ils sont souvent, l'élève les verra même pas. Donc, il y a
Exact.
vraiment une sorte de scan visuel qui se fait, puis il y a des recherches qui l'ont fait vraiment en regardant la position des yeux sur un texte. Il y a vraiment un premier scan qui se fait où on cherche les nombres et les mots-clés, et on les met ensemble. Un de plus, là, ça devient un beau passeport pour l'addition,
Oui.
même si on sait très bien qu'un de plus pourrait impliquer une soustraction.
C'est intéressant comme.
Oui. Et c'est un des éléments, c'est un réflexe normal. Il est en partie causé par le fait que dans à peu près 80% des problèmes qu'on donne aux élèves, ça fonctionne. Fait qu'en même temps, les élèves seraient un peu fous de se priver de ce mécanisme-là qui est plus simple, plus rapide, moins coûteux en termes d'énergie, de temps et tout, alors qu'il fonctionne bien 80% du temps. Une des façons de remédier à ça, c'est d'insister pour que les élèves se représentent le problème. Il y a différentes façons de faire. On pense évidemment à un schéma, ça peut être un mime. Ça peut être aussi juste le fait de reformuler le problème dans ses propres mots. Ça aide souvent à contrer ce réflexe-là, de se lancer sur les nombres et les mots-clés, qui vient aussi de, disons-le, là, d'une certaine conception des mathématiques. C'est quoi faire des mathématiques? C'est faire des calculs. Pour les élèves, c'est souvent ça. Et donc, si on me demande de résoudre un problème, indirectement, ce qu'on me demande, c'est de faire des calculs. Donc, je vais me lancer dans les calculs le plus rapidement possible. Donc, il y a beaucoup de travail pour défaire ces idées-là chez les élèves et particulièrement chez les élèves en difficulté qui ont souvent tendance à s'accrocher aux bouées de sauvetage qu'ils trouvent. C'est pas leur faute, là, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail sur la perception de ce que c'est faire des mathématiques, ce que c'est résoudre un problème, ce que ça signifie, ce que ça demande. Oui, c'est normal de bloquer quand on résout un problème. C'est normal de bloquer, de revenir en arrière, de recommencer à zéro, de bloquer encore, de recommencer encore. Puis les grands mathématiciens le font quotidiennement. Un grand mathématicien, des découvertes majeures, il va en avoir une ou deux fois dans sa vie s'il est chanceux. Le reste du temps, il bloque et il revient en arrière. Donc, faut pas le perdre de vue non plus.
On revient à la place de l'erreur comme source d'apprentissage, tout compte fait en fait.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Marie, pour ce partage. J'aime beaucoup la manière dont tu expliques, c'est clair. Tu sais, ça nous met des images dans la tête. Alors, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir.
Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akouri en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.